France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Piotr Anderszewski, je suis né à Varsovie en 1969 et je suis pianiste.
Hier, Piotr Anderszewski nous confiait son enfance à Varsovie, puis ce déménagement à l'âge de 7 ans pour la France. Avec ses parents et sa sœur, ils vont habiter Lyon, puis Strasbourg. Retour sur ses années d'apprentissage.
Le professeur à Lyon, d'ailleurs, on est toujours en contact parfois, qui s'appelle Françoise Léage, qui m'a un petit peu appris les bases techniques. Parce que c'est vrai que je suis arrivé après un an à Varsovie, j'arrivais à peine à jouer à l'époque, vraiment. Et c'était quelqu'un d'assez rigoureux qui quand même m'a appris quand même une discipline et une technique, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite à Strasbourg, j'ai atterri chez une dame qui s'appelait Hélène Boski, qui je crois était élève de Cortot. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Mais elle a laissé des choses, c'était une artiste merveilleuse. Elle a laissé quelques disques d'ailleurs, très beaux.
Tout à fait, ouais.
Et alors là, c'était le contraire, c'était « ah ben tu joues ce que tu veux ». Tu joues ce qui te fait plaisir et c'est vrai que je jouais, je pense, des choses que je n'étais pas vraiment capable de bien jouer. Je me souviens de Scherzi de Chopin que je massacrais, je crois. Puis ensuite, elle se mettait en colère. Ah oui, tu veux jouer du Chopin, mais tu ne travailles pas, tu fous rien. Bon. Elle était assez colérique. Mais elle m'a aussi, elle avait une grande qualité aussi, c'est que il y a des compositeurs qu'elle aimait vraiment. Et cet amour de ses compositeurs, elle le transmettait. Par exemple, Schumann. Moi, je ne connaissais à peine. Je connaissais à peine Schumann quand je suis arrivé à Strasbourg. Et elle m'a fait jouer du Schumann, voilà. Et je sentais qu'elle aimait cette musique à un tel point. Que, je ne sais pas, j'ai eu cette sensibilité par rapport à sa sensibilité à cette musique. Et ça a été contagieux, en fait.
Mais vous étiez perméable à ça.
Oui. Oui, oui. Mais finalement, vous voyez, on parle beaucoup de profs. Finalement, c'est la perméabilité qui est importante, non? Surtout quand on est jeune.
Vous aimez-vous du prof qui vous raconte ou qui vous montre, par exemple?
Je préfère quelqu'un qui montre. Là, si vous me posez la question comme ça, pour une fois, j'ai une réponse claire. Je préfère décidément quelqu'un qui me montre. Ça me suggère beaucoup plus que quelqu'un qui me raconte plein d'histoires et...
Nous avons des milliers, on peut bien dire des milliers d'œuvres que l'on peut faire travailler aux élèves.
Hélène Boski.
Alors j'ai essayé au maximum de se dire que l'on peut faire tout un travail pendant des années sur des enfants, sur des élèves, sans jamais jouer de mauvaise musique. Et que ce n'est pas parce que nous avons des vieux cahiers qui traînaient depuis 100 ans qu'il faut continuer absolument. On peut arriver à vraiment leur former le goût et surtout développer l'enthousiasme et l'amour de la musique.
De ville en ville sans plus de douleur que ça, ou quand même on quitte des camarades d'une certaine vie et puis quelques années après on bouge, vous êtes senti ballotté ou c'était...
Oui, je dois dire, l'arrivée à Strasbourg, c'est vrai que c'était déjà les tout débuts de l'adolescence, donc déjà c'est un âge qui peut être compliqué et c'est vrai que il n'y avait plus la même insouciance qu'il y avait à Lyon. Et c'est vrai que le changement de ville, le changement d'environnement, le changement de classe, enfin voilà, je devais avoir 10, 11 ans, je crois. J'ai pas un souvenir très joyeux de ça, voilà, de cette période. À Lyon, j'avais quelques très bons amis, ça, tout ça. Bon, après, on s'écrivait des lettres, etc., etc. Mais forcément, ça se... Surtout à cet âge, on grandit tellement vite et on change tellement vite. Et ensuite, il y a eu Strasbourg et ensuite, il y a eu de nouveau la Pologne. Ça, c'était peut-être le plus difficile.
Oui, alors, revenir en Pologne. Oui. On voit ces premières années qui se passent donc en Pologne au début, la toute petite enfance, et puis ensuite ce passage en France qui dure quand même...
7 ans.
Sept ans. Et puis, un beau jour, vous avez quoi, 14 ans, 15 ans, 14 ans.
14 ans, oui.
Et Piotr Andruszewski, c'est le retour à Varsovie. Et ça, c'est...
C'était
quand vous avez 14 ans, on est en 1983.
Oui.
Donc c'est encore la Pologne communiste.
Ah, oui.
Comment c'est de revenir après ces années en France ?
Vous savez, quand vous le vivez sur le moment, c'est très différent, et c'est très différent d'en parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vois ça bien pire que je ne les ressentais, je pense. Parce que je crois que souvent, de telles situations, en plus quand on est jeune, on est enfant, ado... c'est des chocs, un petit peu. Et on est un peu sous le choc. Et moi, je réalise maintenant, je pense que j'étais sous le choc de beaucoup de choses. Et donc, on gère le choc, quoi. On le gère. Heureusement, je l'ai géré. Voilà, je ne suis pas tombé dans... Voilà, je suis là, on parle, on discute, et je suis pas devenu... je ne suis pas à la rue, et voilà.
Et la musique a aidé ? Est-ce que vous auriez...
Je crois que uniquement la musique a aidé. Je crois que s'il n'y avait pas la musique, je ne sais même pas comment j'aurais survécu. C'est vrai que le retour à 14 ans, il y avait bon déjà de nouveau le changement de pays. En plus, je voulais rentrer. J'ai développé à Strasbourg, j'ai développé une espèce de... C'est là que j'ai développé une nostalgie envers la Pologne. Je me souviens même que mon père, il y avait plein de discussions, est-ce qu'on devrait quand même rester en France ? Mais c'était pas simple à l'époque. C'est-à-dire... si vous restiez, on pouvait plus rentrer. On était banni, on était traître. Sa mère habitait à Varsovie. C'était pas des décisions simples. Et nous, avec ma sœur, on voulait absolument rentrer. On se sentait polonais, on voulait rentrer. Voilà. Et oui, c'était pas si dramatique que ça finalement. Mais disons, c'est vrai que surtout la première année de classe a été très difficile. Oui. Je pense que je serais peut-être quelqu'un de plus équilibré si j'étais resté en France. C'est-à-dire que cette adaptation et cette grisaille, enfin, il faut le dire, du pays. Vous savez, c'était la fin de l'état de siège qui a été instauré en décembre 81. C'était une espèce d'agonie du système communiste, mais personne ne croyait que ça allait se finir. Vraiment, ça devait durer des décennies, tout ça. Et donc, il y avait quand même un sentiment de... Je dirais même pas de désespoir, mais de beaucoup de cynisme et d'humour, mais le plus noir, vraiment. Et ça pouvait être très très drôle. Très très drôle aussi, oui. Parce qu'en Pologne, il faut, vous voyez, la grande, grande majorité de la population était contre le régime, finalement. Donc, il y avait toutes sortes de dérisions, de moqueries, on se moquait des gens, quoi. Mais vous pouvez pas vous imaginer y compris les profs à l'école. C'était, on disait absolument tout ce qu'on pensait, mais on savait qu'il n'y a rien à faire.
Une sorte de fatalité, quoi.
Oui, oui, oui. Mais c'était peut-être la seule arme, d'ailleurs, hein. Thank you. Pibot a un système d'enseignement qui était diamétralement différent de ce que j'ai connu en France. Mais un système d'enseignement que je trouvais très médiocre. Qui certainement ne favorisait pas le talent, ne favorisait pas l'individualité. C'était un système où enfin, il fallait être un peu moyen dans toutes les matières. Ça favorisait une espèce de culture générale. Ça, c'est pas mal.
Mais pas l'émergence de personnalité.
Non, la personnalité était plutôt... on lui mettait la botte dessus. C'est-à-dire que, juste pour vous dire un exemple, c'était un système où il y avait la hantise d'avoir une note... bon, c'était un autre système qu'en France, mais une note en dessous de la moyenne. Donc, par exemple, vous aviez, je sais pas, 10, 15 matières au lycée, et dont le piano. C'était quand même le lycée de musique, dont le piano. Enfin, quand même, et en fait... Il y avait un prof de mathématiques qui était très intègre dans sa façon. C'est-à-dire que lui, il ne voyait que ses mathématiques. Et si vous racontiez une bêtise en maths et vous faisiez quelque chose de mal, vous aviez une note mauvaise en maths, il fallait redoubler. Et c'était la hantise de redoubler la classe, en fait. Et au piano, vous pouviez être un génie. Mais ça ne comptait absolument pas. Donc voilà, juste pour vous dire, voilà, il fallait se faufiler... Surtout pour ne pas être au-dessous de la moyenne, avec rien. Et puis le but du lycée musical, c'était quand même de passer l'examen d'entrée à l'Académie Chopin. Voilà.
Et alors, quand on arrive à l'Académie Chopin, Piotr Andrzejewski, est-ce que c'est la libération de quelque chose ?
Ça a été, pour moi, un énorme changement, déjà. C'est-à-dire que on avait aussi la philosophie, je ne sais plus quelle matière on avait, mais c'était quand même beaucoup... Là, c'était quand même beaucoup, beaucoup plus axé sur la musique et le piano.
Mais vous, avant la fin du lycée, finalement, Piotr Andrzejewski, est-ce que vous auriez eu à cœur, déjà, d'être pianiste ? Est-ce que vous aviez cette idée ? Est-ce que vous aviez l'idée que c'était votre vie ? Quand est-ce que ça s'est manifesté à un moment ou...
Non, ça ne se... Non. Ce que j'avais à cœur la musique et le piano, et là, oui. Là, les interprétations, les disques, oui, là, c'était la folie. Mais je rêvais de me sortir de cette école.
Oui, d'avoir le temps pour uniquement la musique.
C'était même pas une question de temps, mais c'est plutôt le rêve de se sortir de cette angoisse de pouvoir passer d'année en année et de finir de faire ce baccalauréat quand même et de se sortir de ce cauchemar.
Et vous êtes fait des bons camarades, des bons compagnons de
oui,
route.
Oui, des bons compagnons d'école buissonnière. Oui, oui. Sauf que moi, quand je suis rentré, j'avais 14 ans. J'avais une année d'avance, donc à cet âge, ça peut faire une grande différence. Et je me souviens, je suis parti de France, j'étais quand même un gamin. Et je suis arrivé, il y avait des mecs barbus qui puaient la nicotine à 10 mètres. Toute la classe puait la nicotine, ils buvaient de la vodka. Je me suis retrouvé dans un environnement très violent. Enfin, pour mes standards d'époque. Alors après, comme on le fait à cet âge, il faut s'adapter. Donc, j'ai pas vraiment fumé ni bu, mais il fallait bien que j'essaye de m'adapter. Un univers quand même assez rude, hein, assez rude. Et on m'appelait le Français, parce que aussi c'était une façon de. J'étais pas des leurs.
Les grands entretiens de Piotr Andrzejewski, Judith Chen. France Musique.
Alors là, quand on sent que c'est une période où vous êtes, pour le coup, boulimique de musique, vous en écoutez, vous allez peut-être en écouter au concert, vous en écoutez en disque, peut-être que là, les interprètes commencent à prendre une place, une singularité.
Ah oui.
Alors, qui sont-ils, ceux qui vous entourent,
Richter,
ceux qui
surtout.
Vous font rêver, Richter ?
Ben, beaucoup, en fait, c'était donc l'époque, comment on dit, l'époque communiste, enfin, oui. D'occupation communiste, j'appellerais ça plutôt. Et donc, on avait très peu accès aux disques. Et tout d'un coup, tout ce que j'ai pu voir ici en France, dans les magasins de disques, tout d'un coup, il n'y avait plus. Donc, il y avait beaucoup de disques russes du label Melodia. Mmh. Et donc, il y avait, on retrouvait plein. Donc, alors, tout ce qui était voilà, Richter, Gilels, Oistrakh, on trouvait plein de choses quand même. Et donc, voilà, c'est peut-être comme ça que Richter m'est devenu tellement proche. C'est parce qu'en fait, ces disques étaient on pouvait les trouver. Voilà, donc j'étais absolument pas au courant de ce qui se passait plus à l'Occident. Enfin, un petit peu, on savait, mais et puis il y avait la radio. Donc j'enregistrais avec ferveur les choses qui passaient à la radio. Il y avait, je crois, tout. Je me souviens plus maintenant, tous les jours, peut-être pas tous les jours, il y avait une heure du soir où il y avait une émission de musique classique. Et j'avais un magnétophone, j'enregistrais tout, absolument.
Et Richter, c'était quoi alors? C'était la fascination pour son côté, comme dirait Mont-Saint-Jean, l'insoumis, pour celui qui ne fait pas de compromis, oui. Aussi, cette force-là?
Il y avait un côté, vous me posez la question et je me pose la question moi-même en même temps. Oui, le côté insoumis et le côté intègre et le côté peut-être comme du vrai artiste dont la principale préoccupation, c'est l'art, finalement, beaucoup plus que tout le reste. Et ça, c'était tellement évident, en l'écoutant, que c'était quelqu'un qui était qui a dédié sa vie à l'art. Donc je crois que c'était ça, une forme de pureté, je pense.
Est-ce que ça donne pas le vertige aussi, cette pureté, cette dévotion, d'une certaine façon, on peut avoir peur aussi.
Pourquoi? Ah, moi, j'avais pas peur du tout.
D'une forme d'ivresse qui pourrait vous couper aussi. Je me demande toujours dans quelle mesure ça isole pas.
Ça isole, bien sûr. Mais vous savez, justement, on en revient à l'époque communiste. C'était aussi, je pense, une forme de survie. C'était un moyen de faire face à la réalité, cette pureté. Et je crois que l'art a été un tel échappatoire, tellement extraordinaire. Donc, c'est des gens qui se nourrissaient de ça vraiment et qui vivaient de ça. C'était un mode de survie.
Dites se nourrir, on le sent, se nourrir par l'écoute, Piotr Andrzejewski, et se nourrir par le jeu. Alors, à quel moment aussi, vous, c'est une manière de parler que de jouer?
Il y avait les deux. Quand je suis rentré en Pologne, j'ai quand même commencé à prendre ça plus sérieusement. Et bien évidemment, j'entendais Richter, j'entendais Gilels, j'entendais pas seulement eux, Michelangeli, que j'avais une fascination aussi. Glenn Gould est venu ensuite. On voulait faire comme eux, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que je voulais imiter, mais c'est tellement beau, ça me prend, mais j'aimerais pouvoir le faire. Donc, c'est sûr que c'était quelque chose qui me stimulait beaucoup, beaucoup. Mais j'avais du mal à travailler le piano. Je crois que j'ai commencé très tard à travailler sérieusement. Ouais. Peut-être à 17, 18 ans.
Un travail qui se fait au piano, qui se fait aussi avec une partition dans son lit ou dans un fauteuil, ou comment est-ce que vous travaillez?
Uniquement au piano. Moi, j'aime beaucoup regarder la partition, analyser la partition, mais pour moi, c'est, je n'appellerais pas ça travail, parce que je sais qu'il y a plein de musiciens qui ont une mémoire photographique, qui travaillent en regardant la partition. Non, moi, je dois être confronté au son. C'est-à-dire que je vois la partition, je joue et j'écoute. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le côté physique, il n'y a pas de travail. Et en fait, pour moi, le travail, c'est le si je peux faire un raccourci et dire les choses très simplement, c'est finalement comment ce que je vois dans la partition, ce que j'aimerais entendre et ce que j'entends au moment où je joue, c'est tellement loin l'un de l'autre et il y a un tel ravin entre les deux. Et en fait, le travail, c'est comment rapprocher les deux, c'est finalement ça. Essayer de s'approcher de ce qu'on aimerait pouvoir entendre, mais que malheureusement, je joue et je... Ça ne marche pas, ça sonne horrible. Et en fait, on essaye, c'est des essais. Ça ne marche pas, finalement, c'est par élimination. On ne sait pas ce qu'est l'idéal. On ne peut pas dire, voilà, ça c'est mon idéal, je veux jouer comme ça et je veux y arriver. Non, c'est... L'idéal, c'est quelque chose d'assez vague, c'est un rêve, c'est surtout ce qu'on ne veut pas qui est important. Donc vous jouez, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, et au bout de 6 mois de je ne veux pas, peut-être, à un moment, ah oui, je voudrais ça. Et encore, ce moment, parfois, il dure très court. Mais c'est pas que je veux ça, et avec ma volonté, pour moi, ça se termine toujours assez mal. C'est un idéal, c'est aussi quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui évolue, c'est pas quelque chose de figé.
Le deuxième épisode des grands entretiens avec Piotr Andrzejewski se referme avec ce Lacrymosa du Requiem de Mozart si cher au pianiste polonais. Réalisation Lionel Quentin, prise de son d'Ofar Guéride, mixage Marie Le Peintre, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.